Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Une semaine en Asie, aujourd'hui, la Chine et l'Inde, en Afrique.
Les Chinois sont très nombreux, un problème d'espace se pose chez eux. Ils ne se tourneront ni du côté de l'Inde, ni en Amérique, ni en Europe. Un seul vide existe dans le monde, c'est l'Afrique.
Dès les années 1960, plusieurs chefs d'État africains, ici le président du Niger de l'époque, s'inquiétaient déjà de l'influence de la Chine sur l'Afrique. Elle allait y faire pénétrer le virus du communisme. Aujourd'hui, les Chinois pratiquent les échanges capitalistes. Mais les anciens colonisateurs européens continuent par automatisme d'utiliser leurs formules habituelles. Le drapeau rouge de Pékin va flotter sur le continent noir. Et si on élargissait l'observation dans le temps et dans l'espace? Dans le temps, la Chine ne fait que retrouver sa part dans la richesse mondiale. Elle l'avait perdue depuis le XVIIIe siècle, c'était seulement une éclipse. L'effacement de l'Afrique date de plus loin, mais ce n'est peut-être qu'une parenthèse. Dans l'espace maintenant, à l'horizon de l'Afrique, il y a aussi l'Inde, avec qui les échanges sont anciens. À l'horizon 2030, voici trois masses qui peuvent se rapprocher. Chine d'Afrique, riche d'un capital humain inouï et qui dessine un possible triangle de l'avenir.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Joseph Boyau, bonjour.
Bonjour.
Avec Stanislas Dembinski, vous publiez aux éditions Jacob un livre justement intitulé « Chine d'Afrique ». Je parlais à votre suite de l'horizon 2030. La Chine, unie depuis longtemps, ça fera en nombre d'habitants
1,5 milliard.
L'Inde, sans doute moins unie, ça fera
1,5 milliard d'habitants.
Oui. Et l'Afrique, fragmentée, dont les habitants sont quand même saisis toujours par un sentiment d'appartenance, ça fera
1,5 milliard.
Bon, voilà, ça c'est de la prospective. Oui, il faut que je vous présente quand même. Vous appartenez à un important centre français de réflexion sur l'avenir. C'est assez rare qu'on reçoive dans la marche de l'histoire un prospectiviste qui donne quand même sa place, j'imagine, à la rétrospective.
C'est indispensable. Vous connaissez ce proverbe africain, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Eh bien, c'est indispensable de comprendre que l'histoire longue donne un rythme au futur.
Le premier millénaire, puisque vous proposez qu'on fasse de l'histoire longue, voit la Chine et l'Inde être déjà des grandes zones de démographie, d'économie prospère. L'Afrique est un peu en retrait, mais elle est au moins à égalité avec l'Europe occidentale à cette époque.
Les trois puissances économiques du monde, selon un historien économiste remarquable qui est décédé il y a 2 ans, hélas, Angus Madison, fait de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique les trois économies dominantes du début du millénaire.
Et si on passe maintenant au second millénaire, prenons le 14e siècle. Je dis ça parce qu'il y a à l'époque des États importants en Afrique dont il est difficile d'introduire l'étude dans les manuels d'enseignement de nos lycées. L'Empire du Mali, par exemple, il est décrit ainsi dans un documentaire de la BBC.
Le cartographe attitré du royaume d'Aragon en Espagne dessine un ensemble de cartes connues sous le nom d'Atlas catalan. Sur la map monde, Mansa Musa trône au centre de l'Afrique. Mansa Musa est alors le roi le plus riche du monde, et sa renommée a ouvert les yeux du monde sur la richesse et la puissance de certaines régions du continent africain.
Gongo Moussa, ou Kankan Moussa, devenu musulman, peut partir, l'âme quiète, en 1324, à la Mecque, sans craindre pour la tranquillité de son royaume.
Voici Gongo Moussa sur un cheval noir précédant l'immense caravane. Chameau porteur d'El-Jézaïr pour les femmes de la cour, de peau et couverture pour les tantes, d'eau douce pour tout le monde. Voici les musiciens en robe basanée, les soldats aux haumes brillants, emplumés, lances au poing comme des vipères.
Partout où Gongo Moussa passe, l'or naît, l'or ruisselle. À pleine main, il le distribue, ou plus exactement, à plein tuyau de plumes, car la poussière du précieux métal est enfermée et scellée dans la plume des grands oiseaux de lune.
Alors, il va vers l'Est, il y a bien d'autres routes, d'ailleurs, qui témoignent d'échanges très anciens entre l'Afrique et l'Asie.
Mais bien sûr, c'est impressionnant de voir comment nous nous sommes laissés enfermer par la vision du monde de Marco Polo. Pour les Européens, c'était la route de la soie qui était le centre du monde, ou par des historiens fantastiques comme Braudel, qui ont décrit le millénaire de la Méditerranée. Non, moi j'ai refait le chemin d'un historien qui s'appelle Ibn Battuta. Et quand vous prenez les routes de ce musulman de Tanger, vous allez jusqu'en Chine, mais pas par les mêmes routes. Et vous découvrez à ce moment-là que le monde était fait d'échanges commerciaux, culturels, l'islam étant un des grands vecteurs sur toute cette région-là. Il y avait y compris un islam en Chine, on l'oublie. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous venez de dire sur le Mali, ce qu'on vient d'entendre sur le Mali. L'empire du Mali, on parlait bien d'un empire du Mali, qui était extrêmement riche à l'époque, grâce à ses flux commerciaux, avec en particulier, à l'époque, ce qu'on retrouve aujourd'hui, les Touaregs, qui, dans toute cette région, faisaient le commerce. Ils avaient besoin de sel, ils avaient besoin de nourriture, ils allaient le chercher où ? Au Mali. Le Mali, à l'époque, s'appelait Manding. Mais je voulais dire qu'avant le XIVe siècle, ce qui a déclenché cette prospérité, c'est en 1222, au moment de l'intronisation de l'empereur Sundata Keïta, la charte du Manding. C'est 567 ans avant la déclaration des droits de l'homme, un texte magnifique, qui parle des droits de l'homme, y compris la liberté du commerce. Cette prospérité qui s'appuie sur la métallurgie, sur l'or, le Ghana en particulier à l'époque, est extrêmement riche, va donner à l'Afrique cette place extrêmement importante au carrefour des échanges.
Alors à ceux qui continuent de penser que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, il était utile de faire cette piqûre de rappel. Néanmoins, ensuite, il y aura assez vite une dislocation des empires, des royaumes. Ce sera le début de l'effacement et du retrait de l'Afrique. Si on revient à la Chine, et nous sommes maintenant au début du XVe siècle, elle aurait pu précéder l'Europe dans une grande politique d'expansion, puisque on sait qu'un amiral pionnier, Zheng He, entre 1405 et 1430, avait atteint l'Afrique.
Avec 300 navires et 30 000 hommes d'équipage, ce sera la plus grande expédition de la flotte impériale. Le décret de 1430 ne fait aucun mystère des intentions de cette expédition. Par mon ordre, l'eunuque Tsang He reçoit mandat d'ordonner aux pays situés au-delà de l'océan de rendre leur hommage à l'Empire Céleste. Nous avons navigué jusqu'à Java, en Malaisie, au Vietnam, au Sri Lanka, et jusqu'à la pointe méridionale de l'Inde. De là, nous avons fait route vers Hormuz, Aden et même Mogadiscio. Nous avons parcouru plus de 30 royaumes, petits et grands.
Alors évidemment, l'essai ne va pas être transformé et l'empereur ne va pas permettre à l'amiral de continuer ses expérimentations. J'aimerais que vous nous parliez quand même de la diaspora chinoise. En Afrique, il y a un proverbe chinois, puisque vous citez des proverbes africains, qui dit que quand l'arbre se déplace, il meurt. Quand l'homme se déplace, en revanche, il peut trouver la fortune. Vous relativisez l'importance des migrations chinoises, et dans l'histoire et aujourd'hui.
Bah oui, parce que je ne suis pas seulement un historien, je suis aussi un économiste, un géographe, et on me dit voilà qu'il y a des Chinois, c'est des vrais nuages de sauterelles aujourd'hui. Alors, combien ? Bah, on a à peu près 500 000 Chinois en Afrique.
D'aucuns disent aujourd'hui 750 000,
oui,
voire
oui.
Plus.
Mais à mon avis, ça c'est le travail du prospectiviste. On va aller vers 5 millions de Chinois. Alors maintenant, il y a combien de Chinois, il y a combien d'Africains ? Alors 5 millions par rapport à 1,5 milliard de Chinois, c'est epsilon, c'est rien du tout. Et alors, par rapport à l'Afrique, c'est encore moins. Donc il faut faire très attention à cette vision cauchemardesque des 1 milliard de Chinois, vous rappelez cette chanson ? C'est très petit en Afrique, en réalité, très petit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le miroir de cela, c'est l'arrivée des Africains en Chine. Nous avons désormais en Chine des Africagora, des mariages mixtes entre des commerçants particuliers nigérians qui viennent acheter le Made in China, très bon marché, et des Chinoises. Donc il y a entre ces deux peuples, contrairement à l'image que l'on a d'un racisme très fort entre les jaunes et les noirs, c'est vrai qu'il y a deux cultures très différentes. Il y a le travailleur discipliné, le chinois. Et il y a l'africain qui n'est pas, non pas travailleur, mais qui travaille d'une façon beaucoup plus créatrice. Et soit c'est l'eau et le feu, soit ils se marient véritablement pour produire ensemble quelque chose de positif. Et ce qui m'intéresse, c'est que le siècle qui arrive, le 21e, va probablement voir ce que, par contre, l'histoire n'avait jamais vu jusqu'à présent, c'est que le continent noir et le continent jaune, je suis désolé de ces couleurs, surtout ne les prenez pas comme quelque chose de raciste, vont donner au monde quelque chose qui va être, je pense, très productif. Parce que c'est deux grandes cultures qui sont en train de se rencontrer.
Alors vous êtes un spécialiste aussi de l'économie de l'Inde. Je voudrais qu'à propos de l'immigration indienne, vous nous disiez son importance relativement plus grande en Afrique que celle de l'immigration chinoise. Écoutez, comment à la radio française, dans les années 1950, radio nationale encore un peu coloniale, elle était perçue par le directeur du journal économique Les Échos de l'époque, que j'ai nommé Émile Servan-Schreiber.
Le Kenya est à 5 heures d'avion de Madagascar, il est naturellement au sud de l'Éthiopie, et à 20 heures d'avion de Paris. Là-bas, on ne vous parle jamais ni des Russes, ni des Américains, on vous parle du problème asiatique et du problème indien. Et ce problème indien, on le voit de ses yeux. Celui qui n'a jamais vu un vol de sauterelles ne peut pas s'imaginer ce qu'est le pullulement indien. Cette marée humaine, même pas la chinoise, qui est pour plus tard, la marée indienne, elle est immédiate. Et sans armes, sans combattre, simplement en occupant les postes intéressants, et notamment le commerce, petit à petit, déborde les Blancs.
Le Rwanda-Urundi, cette ancienne colonie allemande qui est à l'heure actuelle sous mandat belge de l'ONU, présente un caractère de grande actualité parce que l'on y trouve une implantation indienne extrêmement profonde. Et ce qui est très curieux, et très remarquable, c'est que nous sommes là, tout de même, à quelques 15 ou 1700 kilomètres des ports de Dar es Salaam ou de Mombasa sur l'océan Indien, en plein territoire, dont l'accès est fort difficile. Et alors, quand on arrive là-bas, ayant laissé les pagnes des indigènes noirs, on est surpris tout à coup de se trouver au milieu de ces voiles bleus et blancs, fort saillants d'ailleurs. C'est un paysage de sarus et de turbans qui est tout à fait curieux. Mais avec ce point, d'ailleurs, que je tiens à signaler immédiatement, c'est que l'implantation indienne, que ce soit dans le Rwanda-Urundi, que ce soit au Kenya, est limitée aux villes.
Alors, dès les années 50, depuis l'océan Indien, un vrai tsunami, diraient les journalistes, jusqu'au cœur de l'Afrique. Tsunami indien.
Mais bien sûr, un tsunami. D'abord, il faut le savoir, l'Inde, si vous regardez le continent, sa forme, c'est une partie détachée de l'Afrique, géologiquement. Mais aussi, il y a des populations en Inde, les Adivasis, les Indiens d'origine, qui sont noirs, y compris des tribus qui pygmées. Deuxièmement, il est très intéressant de voir que le vent des moussons, on l'oublie ce phénomène majeur, les moussons, ce sont des vents qui jouent un rôle essentiel entre les côtes indiennes, notamment la côte du Malabar et les côtes africaines. Trois mois par an, ils coulent d'Asie vers l'Afrique. On remplit les bateaux et trois mois ensuite, à partir en gros du mois d'avril, on revient avec ces mêmes bateaux. Ça a créé un trafic extraordinaire dans lequel les Arabes, bien sûr, aussi se sont engouffrés. Dernière chose, qui a amené quand même les Indiens au 19e siècle en Afrique ? Les colonisateurs et en particulier les Anglais. C'est la raison pour laquelle les Indiens sont principalement dans la partie Est. Pourquoi faire ? Parce qu'ils avaient besoin de médecins, d'avocats, de commerçants, etc. Les Indiens ne sont pas des grands travailleurs, donc pour les...
Attendez, ça c'est encore un cliché.
19e siècle. Non, ce sont des gens très libres d'esprit. Par contre, on a fait venir des Chinois, on l'oublie, là aussi, au 19e siècle, pour travailler dans les plantations, parce que l'idée c'était que les Chinois étaient des grands travailleurs. Alors, sauterelles, oh mais que c'est méchant, parce qu'il y a Gandhi dedans, rappelez-vous. Gandhi va jouer un rôle majeur en Afrique parce qu'il veut défendre justement les Indiens contre l'apartheid vis-à-vis d'eux et il va imprégner le continent, on l'oublie, par son soft power indien, il s'appuie là-dessus. Mandela lit Gandhi tous les jours en prison et va développer cette vision du pacifisme, de la non-violence dans la libéralisation.
L'imprégnation, elle se fait aussi par le cinéma. Écoutez le témoignage d'un chanteur sénégalais dans L'Afrique enchantée. Eladj Ndiaye, on approche maintenant des années de l'après-indépendance qu'il évoque.
C'était le cinéma Al Akbar et le cinéma Liberté où il y avait deux films, un film cowboy et un deuxième film, un film hindou. Je me rappelle comme film hindou les films de Dharmendra, les films d'Amitabh Bachchan qui sont venus un peu plus tard, mais les films d'Emma Malini.
गुजरा जमाना बचपन का हाय रे अकेले छोड़ के जाना और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les Indiens, les Chinois en Afrique. Chindiafrique, c'est le titre d'un livre de Jean-Joseph Boyot que nous recevons ici. Le co-auteur Stanislas Deminski, l'éditeur Odile Jacob. Les années d'après l'indépendance, ce sont des années où pour les États d'Afrique, assez balkanisés, il y en a plus d'une cinquantaine, c'est la possibilité qui s'annonce d'une ouverture, d'une diversification des marchés. Et un certain nombre d'entre eux se tournent vers la Chine et l'Inde, parce qu'il y a la même volonté de rattrapage de la Chine et de l'Inde et de l'Afrique à l'époque.
Les Africains sont fascinés par la façon dont la Chine et l'Inde ont quand même réussi. Alors, la Chine avec Mao, mais surtout depuis le tournant de Deng Xiaoping, a effrayé l'Occident par sa puissance. Et puis, ils ont vu qu'un pays démocratique, donc là, c'était tout nouveau, pouvait combiner démocratie et décollage économique, même si ça reste moins puissant que le décollage chinois. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez passé à propos de la musique. Le Bollywood fait un tabac partout en Afrique, que ce soit francophone, anglophone, etc. Et là, je pense que ma lecture du futur, c'est bien la combinaison d'un hard power, d'un pouvoir dur au sens non pas violent, mais d'un pouvoir de la Chine, reposant sur sa capacité productive, et d'un soft power, d'un pouvoir des idées.
Mais là, vous anticipez, parce que dans les années 60, hard power, soft power, il y a un certain nombre de pays africains qui se disaient simplement marxistes, léninistes, et qui cherchaient, quittant le giron occidentale, des partenariats avec la Chine de Mao et de Xuanlai, l'ambassadeur perpétuel de Mao.
Monsieur Xuanlai est arrivé au Caire, première étape de sa tournée à travers l'Afrique. Sur le thème de la solidarité afro-asiatique, la délégation chinoise a ainsi entamé un voyage de 6 semaines qui, espère-t-elle, lui permettra d'accroître l'influence de Pékin auprès de certains pays d'Afrique. On sait le rôle qu'entend jouer la République populaire chinoise auprès des États nouveau-nés de l'Afrique. Rien d'étonnant donc à ce que M. Sékou Touré ait reçu du gouvernement de Pékin un accueil particulièrement chaleureux. À Pékin, 100 000 personnes ont protesté contre l'exécution de Patrice Lumumba. Sous le regard du président Chou Enlai et de ses ministres, se succédèrent des allocutions vengeresses dont le but, à travers quelques personnalités africaines présentes, était de transmettre au Congo l'appui de 650 millions de Chinois.
L'Afrique de ces années 60, c'est comme une peau de léopard. Il y en a qui choisissent les non-alignés, il y en a d'autres qui choisissent les communistes, il y en a d'autres qui choisissent les occidentaux.
Oui, ils choisissent, oula, c'est pas très clair, parce qu'il y a beaucoup quand même dans cette peau de léopard qui vont se rallier, on va dire, au camp occidental, sans que ça soit vraiment un choix. C'est fondamental, c'est 1955, le sommet de Bandung. Vous avez Nasser, Nehru, Chonlai, qui crée le tiers-monde et qui dit, ils prennent l'engagement de céder ensemble contre l'impérialisme, qui, faut pas l'oublier, les dernières décolonisations de l'Afrique, c'est de 92. Je crois qu'on oublie, on croit que c'est 1945-50. Non, pas du tout. L'Afrique va lutter et dans cette lutte, elle va recevoir le soutien massif de la Chine et de l'Inde. Ce qui va enfoncer le coin, c'est 62. 1962, la guerre entre l'Inde et la Chine. Et il faudra 30 ans, en réalité, pour qu'ils se réconcilient par la fameuse visite historique de Rajiv Gandhi en Chine.
Dans le dernier tiers du XXe siècle, la Chine d'abord, l'Inde ensuite décolle, mais une grande partie de l'Afrique s'enfonce. Comment dire, dans un modèle coupable? Les économistes parlent
alors
des spirales vertueuses, on peut parler de modèle coupable.
Non, là-dessus, moi je reste persuadé que vous avez une équation démographique. Dans les années 60, l'Afrique fait, grâce à une amélioration très nette de sa situation, et sa libération, fait plein d'enfants. Et on est dans la phase la plus mauvaise pour le décollage économique. C'est-à-dire, il y a trop, entre guillemets, d'enfants très très jeunes. Ça se prête pas au développement économique. Et puis, il y a aussi la recherche d'un modèle africain de développement. Il faut bien comprendre que la Chine réussit parce qu'elle a son modèle de développement. L'Inde réussit parce qu'elle a son modèle de développement. Pour l'Afrique, c'est plus difficile. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à partir des années 1990, ce que l'Occident ne voit pas, c'est que l'Afrique a trouvé petit à petit son modèle. Et que l'Inde et la Chine apportent à l'Afrique, sous perfusion de ce point de vue-là, des choses très importantes pour l'Afrique. C'est une valorisation de ses matières premières à des prix normaux et une industrialisation d'un type tout à fait nouveau.
Parce que, donc à la fin des années 90, selon vous, l'Afrique a, à l'horizon, dans son viseur, la réussite chinoise d'abord, la réussite indienne, plus lente. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? C'est pas un des plus grands pays d'Afrique, il y a 4 millions et quelques d'habitants, mais une partie de France Inter s'y déplace à partir de demain. C'est le Congo-Brazzaville. Alors, le premier président éphémère du Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Yulou, croix de guerre française, croix du Christ sur sa soutane blanche haute couture, disait « J'accuse la Chine, c'est la Chine qui m'a renversé, elle importe le virus du communisme ». Et puis, l'actuel et quasi perpétuel président Sassou Nguesso, il a commencé marxiste-léniniste, maintenant il est ultra-capitaliste, et dans les deux phases de son parcours, il a rencontré les Chinois, voici un de ses ministres, puis encore un autre de ses ministres, et puis une femme d'affaires chinoise de Brazzaville.
Vous allez bien? Bonjour, ça va? Nihon. Nihon. Oui, je parle même chinois. Nihon. Voilà les contre-maîtres chinois qui sont là. Reconstruire un pays, c'est pas évident, mais enfin, il faut beaucoup de patience. Hein. Celui qui nous accompagne, c'est bon. Celui qui ne nous accompagne pas, c'est dommage. Le plus important pour nous, c'est développer le pays. Peu importe avec quel partenaire. Le réseau de Brazzaville, ce sont des Chinois qui vont développer l'usine d'eau qui donne Jiri. Et puis s'occuper également du réseau de distribution dans la ville de Brazzaville. C'est la société ZTC. Ils sont un peu partout hein, au pays. Ils sont également dans la prospection minière.
Il y a quelques années, nous pouvions dire que la Chine importait des bois bruts. Mais depuis quelques temps, conformément à notre législation, les entreprises sont tenues de transformer au moins 85% des bois sur place. Et les sociétés chinoises s'y emploient.
C'est grâce à mon beau-frère qui est venu de la Chine visiter au Congo.
Arrivée seule il y a 8 ans, Jessica a fait venir au Congo 80 membres de sa famille.
On a beaucoup discuté, on veut faire une usine de carreaux, on veut faire des peintures, on veut faire beaucoup de choses. Mais après, on a choisi le baie vitrée parce qu'à Pointe-Noire, quand on a vu, il y a beaucoup de maisons qui sont en train de construire. Donc on trouve que la baie vitrée, ça va aller.
Ouais, il y a pas mal, ouais. C'est eux, voilà, ils vont les montrer.
On entendait Jessica Ye, c'est une figure légendaire, success story chinoise au Congo-Brazzaville dans le documentaire de Fabrice Monod, drapeau rouge sur le continent noir. Alors, le bois, la construction, il faudrait aussi parler du barrage d'Imbulu, les infrastructures, et puis la production industrielle. Tout ça aux mains des Chinois.
C'est effrayant, n'est-ce pas? Ouais. C'est effrayant. Écoutez, il faudrait quand même être un tout petit peu réaliste et comprendre que l'Afrique fait 33 millions de kilomètres carrés, qu'on peut y mettre à la fois la Chine, l'Inde, l'Europe et les États-Unis. Donc vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Le problème de l'Afrique, c'est comment développer son continent. J'aime beaucoup cette phrase de Deng Xiaoping. Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc du moment qu'il attrape les souris. Eh bien, ce virus-là, il a gagné l'Afrique. Aujourd'hui, on dit peu importe qu'un chat soit chinois ou indien du moment qu'il nous aide à nous développer. La question, c'est est-ce qu'ils aident ou pas? Eh bien, quand vous regardez les phénomènes, il faut savoir que l'Afrique et la Chine sont équilibrés en solde commercial. Que l'Afrique a un excédent commercial sur l'Inde. Ça, c'est pas connu du tout. Pourquoi? Et bien sûr, il y a beaucoup de matières premières qui vont alimenter la Chine parce qu'elle n'en a pas. Est-ce que ça pose un problème? Non, en théorie du commerce international, on considère que ça ne pose pas de problème. L'Inde n'a pas de matières premières, elle n'a pas de pétrole en particulier. Donc effectivement, ils voient dans l'Afrique ce grenier à ressources naturelles qui va leur permettre de continuer à se développer. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'Afrique? Eh bien, ils apportent effectivement des travaux d'infrastructure absolument géniaux.
Alors le barrage, par exemple,
oui,
au Congo-Brazza d'Imbulu. Alors on dit que c'est coûteux, que c'est peut-être pas bien fait. On ne rappelle pas que le Congo-Océan, la grande ligne de chemin de fer qui a été construite par les Français... C'est peut-être une légende.
Non, mais c'est très juste.
Une vie humaine de noir par traverse.
Non, non. Et alors, il y a quelque chose de tout à fait juste, c'est que il faut avoir une vision réaliste des choses. La Chine, quand elle arrive en Afrique et qu'elle tombe sur des dirigeants, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, qui sont pas tout à fait précautionneux, peut alimenter la corruption. Parce que c'est la règle du jeu, non pas parce que les Chinois veulent absolument le faire, parce que c'est la règle du jeu. Et c'est là où le triangle Inde-Chine-Afrique est très important. Par l'arrivée massive des Indiens depuis quelques temps, à la demande des Africains, ça permet à l'Afrique d'infuser ce qu'on appelle un droit de transparence. Car le développement de type indien n'est pas un développement parfait, mais c'est un développement dans lequel la société civile, les ONG, jouent un rôle majeur. Ce qui s'oppose en Afrique, c'est très intéressant, c'est le consensus de Pékin contre le parfum de New Delhi. Et donc, dans ces cas où l'Afrique va être influencée, on va dire, côté corruption, éléphant blanc, pour des présidents peu précautionneux, on va avoir, et on a, une société civile qui s'inspire de cette force de l'Inde pour contrebalancer la corruption.
Tout de même, les produits made in India ou les produits made in China concurrencent la malheureuse production industrielle africaine. Jessica Yeh, à Brazzaville, elle fabrique des baies vitrées. Oui, mais enfin, elle a aussi importé beaucoup de pacotilles chinoises dans ses boutiques. Et puis, on pourrait dire aussi que le textile chinois frappe de plein fouet le textile africain.
Alors, c'est pas faux, mais il faut le voir en dynamique. C'est là où votre marge de l'histoire est importante, cette vision que l'on peut avoir. Oui, dans un premier temps, le Made in China en particulier a envahi l'Afrique, parce que c'était des produits abordables pour les populations africaines. Mais n'oubliez pas que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des traders, des commerçants nigérians, égyptiens, libanais, qui sont allés chercher ces produits. Il y a 700 millions de téléphones mobiles en Afrique aujourd'hui. Ça a changé la donne. Pourquoi il y a 700 millions de téléphones mobiles? Parce que c'est du Made in China. On peut avoir un téléphone mobile à 5 euros. Et parce que c'est du Made in India. Je peux téléphoner une minute pour un centième d'euro.
C'est-à-dire que les Chinois et les Indiens introduisent des innovations que vous dites frugales, c'est-à-dire que ils peuvent introduire des frigos là où il n'y a pas d'électricité, ils ont le souci des plus pauvres et aussi des plus jeunes. Allez, on prend un dernier exemple, parce que ça va peut-être nous aider dans notre voyage qui commence demain. On est en brousse, on n'a pas de distributeur
et voilà.
Bancaire, on n'a pas de banque, et pourtant...
Et pourtant, vous avez trois innovations qui vont, un, vous permettre de téléphoner. Le chinois ZTE et l'indien Airtel ont eu le prix d'innovation pour une alimentation par solaire et éolien combiné de ces stations mobiles, vous savez, qui vont aux quatre coins du désert africain. Et puis, deuxième innovation qui va vous aider, effectivement, c'est que vous n'avez pas la BNP là-bas, n'est-ce pas? Mais si vous avez ce fameux petit téléphone Nokia qui vous permet de payer, vous allez le faire. Et puis enfin, si vous êtes malade, vous allez trouver des médicaments qui ont fait la révolution en France, n'est-ce pas?
Les génériques, vous
voulez
dire?
Les génériques. D'où viennent les génériques? D'Inde et de Chine. Ça a permis, sur le continent africain, une amélioration de la santé gigantesque.
L'émission était réalisée par Jacques Sigal, avec Litvine Caron, la préparation Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin, et le titre de votre livre, Jean-Joseph Boyau, Chine d'Afrique, aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.